Fantaisie, en do majeur, opus 17 de Robert Schumann, qui a écrit ces vers de Friedrich Schlegel en exergue de sa partition. À travers tous les sons résonne dans les rêves diaprés de la terre un chant doux que distingue seul celui qui écoute dans le secret de l'intimité. Troisième mouvement de cette fantaisie à l'instant, interprété magnifiquement par la pianiste Mitsuko Uchida. Et vous le savez, on l'a dit, Mitsuko Uchida est l'une des interprètes les plus respectées et admirées de la musique de Mozart. Son nom est souvent associé à une compréhension particulièrement fine de ce compositeur. Alors voici le premier grand chef-d'œuvre de Mozart, son 9e concerto pour piano en mi bémol majeur. Il est écrit pour une pianiste française, une certaine Mademoiselle Jeunehomme, dont on ne sait pas grand-chose. Et le rondo final frappe par son énergie et par sa vitalité.
Thank you.
Troisième mouvement qui est un rondo du 9e concerto en mi bémol majeur, dit Jeune homme, composé par Mozart, interprété par Mitsuko Uchida au piano, avec l'orchestre de chambre anglais placé sous la direction de Jeffrey Tate. Et voici toujours cette maîtrise absolue du style mozartien entre virtuosité et émotion. Voici sa 14e sonate en do mineur. Elle date d'octobre 1784. Mozart prépare déjà dans son esprit son opéra Les Noces de Figaro. Le ton de do mineur est très important pour Mozart à cette époque. Il écrit aussi sa grand-messe en do mineur. Et voici l'énergie du premier mouvement de cette sonate dans la version de la grande Mitsuko Uchida. Un opéra miniature à l'instant qui nous était offert par le premier mouvement de cette 14e sonate en do mineur, Köchel 457 de Mozart, sous les doigts toujours inspirés de la pianiste Mitsuko Uchida. Merci de votre fidélité aux stars du classique à retrouver sur le site de France Musique et l'application Radio France. Et je remercie Benjamin Orgeret et Cécile Bonnet-Desclostres.
C'était Star du classique d'Aurélie Moreau. À 7h, vous retrouverez Jean-Baptiste Urbain et toute l'équipe de Musique Matin. Mais tout de suite, les grands entretiens. Bon réveil sur France Musique. France Musique, les grands entretiens, Christophe Dillis.
Je m'appelle René Treguer et je suis un ex-pianiste de jazz assez connu. Et voilà.
Vous avez été très vite reconnu par le monde du jazz dans ces années 50. En 1953, après le tournoi des amateurs, ben ça y est, la carrière est lancée. Vous jouez au Blue Note, par exemple.
Oui, et puis je jouais par exemple au Blue Note, mais aussi aux Champs-Élysées. Il y avait tout l'orchestre de Yves Montand, qui était une énorme vedette à l'époque. Ils venaient tous, et il y avait Emmanuel Soudieu, qui jouait de la basse, il y avait, j'ai oublié les noms, Henri Crolla, et tous ces gens étaient raffolés de ce que je jouais. Ils avaient l'impression d'entendre un... Et excusez-moi, mais à l'époque, on parlait beaucoup du jazz américain, parce qu'il y avait une telle différence avec l'Amérique et l'Europe, il y avait vraiment une différence.
Il y avait quand même pas mal d'Américains à Paris, le Blue Note, c'était Kenny Clark.
Justement, c'est pour ça. Il y avait des gens comme moi qui faisaient le lien, et il y avait beaucoup de musiciens comme Jimmy Gourlet ou qui vivaient à Paris. Jimmy qui a même épousé une Française. Mais il y avait une différence entre les Américains et les Français. Il y avait les Américains et les Européens, pas spécialement les Français.
Et elle est où la différence?
Ben justement, maintenant elle a disparu.
Mais à cette époque-là?
C'est une bonne question. Il fallait jouer noir hein, à l'époque. J'avais cette faculté de jouer facilement noir.
C'est quoi jouer noir?
C'était avoir le swing. Je me rappelle une fois, j'ai joué à New York. J'ai fait une jam. Et il y a une femme noire qui m'a dit... C'est vous qui jouiez dans la pièce à côté. C'était une jam session sans façon, comme il y en a plein aux États-Unis. Vous jouez comme un noir, et elle m'a dit. C'est marrant qu'elle m'ait dit ça.
Vous étiez René Urtreger à cette époque-là. Est-ce que là, vous avez 20 ans, vous jouez avec Roy Haynes, Kenny Clarke, Stan Getz, Chet Baker, Dexter Gordon, Lester Young, Lionel Hampton. Mais vous êtes qui par rapport à eux? Est-ce que vous, vous vous sentiez un peu jeune ou un peu un jeune prodige ou complètement intégré?
Voilà, c'est ce que vous venez de dire. Je me sens un jeune prodige, mais je suis français, mais je reçois tellement de compliments de ces gens-là que ça ne peut que me flatter, quoi. Ouais.
Et puis les musiciens aussi ont besoin d'être flattés pour aussi être libérés.
Et on a besoin d'être aimés, oui, oui.
Donc vous vivez cette période-là, René Hurtreger, passionnante de transition à Paris entre le swing et cette nouvelle forme défendue par Stan Getz et Charlie Parker et, oui. et tout ça. Et vous avez senti dans votre jeu aussi changer? Vous suiviez un peu le cours de l'histoire du jazz consciemment, non?
Non, j'étais très... Je jouais comme je le sentais. Et les gens avec qui je sentais, c'était ces gens-là dont vous parlez par cœur. C'est mon grand regret d'avoir jamais joué avec Charlie Parker.
Ouais.
C'est mon grand regret.
Oh bah c'est sans doute un des seuls noms avec qui vous n'avez pas joué.
Je sais pas. Mais je me rappelle que j'ai joué avec Miles pas très bien. Parce que Miles évoluait sans arrêt. Et moi, je suivais pas.
Mais il évoluait, mais c'était lui le moteur de l'évolution. Et lui, il n'avait pas à suivre. C'est lui qui l'a créé, cette évolution.
Oui.
Vers le cool.
Oui, mais... Je m'en veux un peu, si vous voulez. J'étais pas à la hauteur de suivre les évolutions de gens comme Miles.
Oui, mais pourtant, c'est comme... Il vous fait confiance... À vous, René Hurtreger.
Oui, mais parce que j'ai fait montre de mes qualités. Mais ça suffit pas. J'ai jamais été capable de jouer comme les pianistes qu'il a eu après moi, si vous voulez, qu'il a eu aux États-Unis. Ce qui aurait été intéressant, c'est que je devienne américain, vivre là-bas, jouer là-bas.
Est-ce que vous pouvez me raconter votre rencontre avec Miles Davis?
Miles était un type très froid. Je l'ai rencontré, je vais jouer avec lui en Europe. Et j'ai rencontré, il n'a même pas dit le nom du morceau qu'il voulait jouer. Et il a attaqué un morceau et je le connaissais. Je me demande ce qui serait arrivé si je ne l'avais pas... Il a attaqué, je sais plus lequel, un morceau à lui. C'était un type assez prétentieux, mais comment dire, il méritait d'être comme ça. C'était un super musicien.
Vous vous souvenez des circonstances de la rencontre ou pas?
Miles, je savais que je devais jouer avec lui, donc faire une grande tournée dans toute l'Europe, à commencer par la salle Pleyel. On avait rendez-vous tous dans une vieille école abandonnée, quoi. Et évidemment, lui voulait personne. Mais il y avait 50 gamins de mon âge qui étaient planqués partout. Il est arrivé vers 9-10 heures du matin. Il arrivait de l'avion. Il n'a pas dit bonjour, rien. Il était très... Il nous snobait, quoi, les musiciens français. Et il a vite compris, en entendant Michelot, que c'était un grand bassiste. Il a vite compris que Christian Garros... Je me suis fait assez engueuler parce que j'ai pris Garros, qui jouait pas avec nous le soir. J'aurais dû prendre Al Levitt ou quelqu'un comme ça. Mais comme j'étais tout sauf con... Je savais que Miles, il s'entendrait mieux avec Christian Garros qu'avec quelqu'un qui connaissait un jazzman. Il adorait Michelot en plus. Comme Michelot était le seul capable de tenir un tempo et de jouer les bonnes notes.
Pierre Michelot, le contrebassiste, ouais.
Oui, oui. Et surtout, il a attaqué un morceau et je l'ai tout de suite suivi, moi. Il n'a pas dit le nom ni rien. Il était comme ça, Miles. Hein. Il aimait tendre des pièges et faire des crocs en jambes.
Oui, c'était vraiment un piège, c'était un test.
C'était un test.
Et que vous avez relevé ?
Non, il pouvait penser qu'on était des musiciens de studio pour jouer avec lui, que quelqu'un avait sélectionné. Alors que là, j'étais un vrai jazzman, moi, il a attaqué. Je sais plus quel morceau de lui, qu'il avait écrit, et j'ai suivi tout de suite. Alors, j'ai vu qu'il a été impressionné, quoi.
Triangle René Hurtreger, Miles Davis et Pierre Michelot, ça a donné une des pages de jazz les plus...
Oui, il y a eu des beaux moments, des très beaux moments.
Parce que dès que Miles venait à Paris, il jouait avec vous.
Il jouait avec nous, oui.
Alors je sais qu'on vous en parle souvent d'Ascenseur pour l'échafaud, mais vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est passé?
Certains avaient vu le film comme Miles ou... Miles était à coquiner avec ma sœur Jeannette et elle était au mieux avec Marcel Romano et Louis Malle. Il y avait une chose que les musiciens faisaient et ne font plus, je crois, c'est qu'ils jouaient un type comme Miles, qui était la vedette, ils se prenaient pour une vedette. Il jouait comme une vedette. Et il me laissait presque rien à jouer, un chorus ou un demi. Il me faisait pas confiance pour jouer longtemps. La vedette pouvait tout faire. Enfin bon, c'est pas très important ça. Je veux pas mettre mon ego en premier. C'est pas très important. Sauf qu'il y a eu des moments où, par exemple, en tournée où il y avait quand même le MGQ, John Lewis.
Le MGQ, c'est le Modern Jazz Quartet.
Le Modern Jazz Quartet. Et Bud Powell. Et tous ces gens, ça faisait une joie. Perseus m'appelait pour venir jouer avec eux. Comme John Lewis, il n'aimait pas faire un bœuf. C'était drôle quand, en Allemagne, je me retrouvais, moi, avec cette section rythmique.
René Hurtreger, depuis qu'on a organisé cette rencontre pour les grands entretiens, il y a une idée qui m'est venue en tête que je n'ai pas réussi à chasser, c'est de jouer Ascenseur pour l'échafaud avec vous. Est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on le fasse ?
Ah bah bien sûr, avec plaisir. On verra bien le résultat.
Alors, comme vous n'avez pas de piano chez vous, on a amené dans le camion un piano. Donc, vous êtes pris au piège, de toute façon.
On y va ?
Ouais.
France Musique, les grands entretiens de René Hurtreger.
J'aimerais bien en savoir un peu plus sur l'ambiance dans les clubs de jazz. Là, on parlait du fameux Buff au Blue Note. Il y avait Quincy Jones à la trompette et Kenny Clarke et Jimmy Gourlay et Clifford Brown. Et j'ai cette vision d'une rangée de musiciens assis qui attendent de passer leur tour. C'était comment ?
C'était assez formidable. Par exemple, quand les musiciens jouaient un concert, par exemple, Sal Playel, c'était tout à côté, à pied de même du Blue Note, c'était le prolongement de la rue, quoi. Je me rappelle un épisode formidable, c'est il y a un concert avec je sais plus qui, un type important, mais dans le jazz. Et on arrive, nous, on arrive à cet endroit-là, et on voit des gens qui, enfin, on les connaît, quoi. Et ils nous connaissent. Ça se voit, ça se sent. Les types, ils jouent. Ils n'avaient pas leur matos, il n'y en avait qu'un seul qui avait la trompette. Ils jouent, et je me rappelle, il y a... On ne savait pas qui c'était. C'était des jeunes. On voyait bien que c'était des jeunes de 20 ans, 22 ans. Ils connaissaient évidemment tous les morceaux, comme les musiciens américains, y compris les morceaux modernes. À l'époque, c'était Miles. Et je me rappelle que il y a un mec qui a joué la trompette avec la trompette de je sais pas qui. Et c'était déjà pas mal du tout. C'était Art Farmer, le mec. On savait pas qui c'était.
Ah oui.
C'était Art Farmer. Après, il y a eu un autre mec, il a passé son embouchure à un autre mec. Le mec s'est joué et on tombe par terre. C'était Clifford Brown.
C'était Clifford Brown, ah oui.
Ouais. Et là, on est tombé par terre tellement on a reçu ça en pleine poire.
Mais en fait, c'est ça, c'est que vous étiez des vedettes et vous jouiez avec d'autres vedettes et il y avait du respect, de l'admiration mutuelle et réciproque.
Il y avait de la surprise surtout.
Ouais.
Surtout de la part des musiciens américains. Ils étaient là avec des musiciens français et ça jouait.
Oui, c'est ça.
Et en fait, le seul problème qu'on avait, nous, les Français, c'était les sections rythmiques. Elles n'étaient pas à la hauteur des rythmiques américaines.
Donc les pianos, basse, batterie, ça suivait pas comme...
Elles n'étaient pas à la hauteur. Je me rappelle que c'est dommage, mais c'était comme ça.
Et quand vous avez fondé le trio HUM, c'était avec cette idée en tête de fournir un peu à la France une section...
Non, c'était simplement de jouer comme Daniel Humer, il est très arriviste. C'est pas péjoratif ce que je dis. Il est très ambitieux, disons. Hein. Et on l'a fait avec Michelot. On a décidé de faire une rythmique. Daniel, c'est vraiment un super batteur. Enfin, surtout à cette époque-là. Et Michelot, c'est un bassiste. Et donc, on a décidé de faire ça. Et ça a fonctionné terrible parce que les mecs qui venaient, ils avaient une rythmique de rêve qui valait toutes les rythmiques américaines. Parce que, en fait, la différence qu'il y avait à l'époque entre eux et nous, c'était ça. La rythmique, les rythmiques, il y avait une différence.
Bye Bye Blackbird par le trio Pierre Michelot à la contrebasse, Daniel Humer à la batterie et René Urtréguer au piano, enregistré au Club Saint-Germain à Paris en 1960. Et le reste de la programmation musicale de l'épisode est disponible sur la page de l'émission sur francemusique.fr. Un grand merci à toute l'équipe des Grands Entretiens, Hervé Dubreuil à la prise de son, Valérie Lavalard au mixage, Marie Ferdinand à la préparation et Adrien Roc à la réalisation. Demain, dans le quatrième épisode, René Urtréguer continuera sa galerie de portraits des jazzmen américains et français et nous parlera de certaines mauvaises habitudes.
Et si l'histoire de la musique se racontait, un feuilleton d'Anne-Charlotte Raymond.
Je vous invite à remonter le temps. Venez découvrir l'histoire passionnante des castrats, du ballet, de la musique américaine ou encore du piano, l'instrument roi.
Et si l'histoire de la musique se racontait, un feuilleton d'Anne-Charlotte Raymond à écouter en podcast sur le site France Musique et l'appli Radio France.
France Musique, les essentiels. François-Xavier Chemchak, le rendez-vous de la semaine à 13h30.
Artistes d'aujourd'hui et légendes du passé vous attendent dans Les Essentiels. Nous explorons à fond les gravures de ces interprètes qui nous enflamment, nous font rêver, voyager, nous consolent parfois et souvent nous inspirent. De Leonard Bernstein à Yu Jiawang, en passant par Les Arts Florissants, ce sont Les Essentiels.
Les Essentiels, une émission France Musique à retrouver sur le site et l'application Radio France.
Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Et voilà, tout est dans le bon ordre. Bonjour à tous, il est 6h55, ravi de vous retrouver pour ces deux heures de réveil en musique en ce mercredi 16 octobre 2024. Dans notre éphéméride musicale aujourd'hui, l'anniversaire de Marine Alsop, la chef new-yorkaise fête ses 68 ans. Elle dirige ici la musique de l'un de ses mentors, c'est Leonard Bernstein. C'est l'ouverture de Candide. Et ça décoiffe. Thank you.